C'est n'importe comment parce que ça avait trait avec quelque part d'une certaine façon avec ce qu'on va voir. C'est pour ça que je vous dis faites bien attention à ce que vous chantez. Je décide de te suivre dans les bons comme dans les mauvais moments. Béni soit ton nom. On a chanté aussi Jésus, je te suivrai. C'est facile à chanter, hein. Jésus, je te suivrai. Ouais, c'est très facile à chanter quand tout va bien. Quand c'est plus compliqué, ça devient un peu plus difficile à sortir. Voyez. Et puis il y avait des paroles dans tous ces chants qui correspondent un petit peu à ce qu'on va voir. Je voudrais m'arrêter avec vous dans le livre de l'Apocalypse. Vous vous rappelez qu'au début de ce livre, extraordinaire d'ailleurs, il y a ces fameuses lettres aux sept églises où le Seigneur s'adresse à chacune. Il y a la première, en général, on s'en souvient, c'est Éphèse. La dernière aussi, la Odyssée, je vais y revenir. Et je voudrais m'arrêter avec vous sur une autre de ces églises où le Seigneur va donner un conseil un petit peu particulier. Et quand je dis un petit peu particulier, c'est dans le sens eu égard au contexte dans lequel cette église se trouvait. Et je crois que ce conseil que le Seigneur donnait en son temps à cette église-là, il nous le donne aussi à nous. Et franchement, quand je l'ai lu, ça m'a travaillé. On en a parlé avec Rosetta ensemble. Et je crois vraiment que ce conseil, il est plus que jamais d'actualité. Peut-être c'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. J'en suis même convaincu. Peut-être il veut te le dire d'une manière un petit peu plus particulière. Peut-être on est venu en attendant une réponse. On attend quelque chose du Seigneur, une réponse, une direction. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, des fois, on ne sait pas trop. Et peut-être ce matin, c'est ce que le Seigneur veut te dire d'une manière très, très simple. Alors, de quelle église s'agit-il? C'est la deuxième. Alors, si je vous dis ça comme ça, la deuxième, interrogation écrite. Hein. C'est l'église de Smyrne. Apocalypse, chapitre 2, verset 8. Ah ouais, mais vous l'aviez derrière. Voilà. Olivier, c'est ta faute. Voilà. L'église de Smyrne. Alors cette église, elle a la particularité que c'est la seule fois où elle est mentionnée dans la Bible. Vous voyez, la seule fois où on trouve mention de cette église, vous l'avez là. Vous voyez, et j'ai regardé un petit peu, c'était une ville qui était située au fond d'un golfe, au nord d'Éphèse. Vous voyez, au fond d'un golfe. C'est très intéressant parce que ça montre que même quand on est au fond du fond, le Seigneur nous voit. Hein. On peut se planquer, on peut se cacher. Peut-être même on peut se dire je suis au fond du trou. Peut-être c'est le cas de quelqu'un ce matin. Ben, le Seigneur a quelque chose pour toi. Alléluia. Et donc voilà ce que le Seigneur dit à cette église. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, donc au responsable. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Voilà, alors je ne vous apprendrai rien en vous disant que ces sept églises représentent un petit peu l'église avec un grand E au fur et à mesure des siècles qui sont passés. Voyez. Donc vous avez la première, l'église d'Éphèse, qui est un petit peu l'image des premiers croyants. Et on se rend compte, vous connaissez un petit peu tout ça pour la plupart, que tout de suite les premiers problèmes ont surgi, puisque le Seigneur va dire ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Hein. L'habitude, la routine qui s'était installée très vite. Voyez, comme quoi, déjà rien que ça, on a besoin de veiller à ça, à la routine qui peut s'installer dans notre vie, le train-train, les habitudes, et on ne se rend plus compte qu'on perd notre ferveur. Et puis vous avez la dernière, la Odyssée, qui représente un petit peu l'église des derniers temps, où on se rend compte que quelque part, c'était l'église, moi je l'appelle l'église de l'illusion. C'était dans l'illusion, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas. Vous voyez, dans l'illusion, il n'y a rien de plus terrible que d'être dans l'illusion, de s'illusionner sur le plan spirituel, de penser que, alors qu'on est complètement c'est complètement à l'opposé. Vous voyez, et c'est un petit peu ça l'église de l'Odyssée. Et puis vous avez cette église de Smyrne, qui elle représente un petit peu l'église qui a connu la persécution. Et d'ailleurs, quand on lit ces versets, on se rend bien compte que ce n'était pas simple. Hein, et on sait, en regardant un petit peu l'histoire de l'Église, qu'à bien des époques, il y a eu la persécution. Il y a eu la persécution encore aujourd'hui. Quand je vous donne des nouvelles de l'AEP, on est conscient de se rendre compte que, ou même Portes Ouvertes, on se rend bien compte qu'il y a des chrétiens encore aujourd'hui qui subissent la persécution, mais l'histoire montre que les chrétiens ont subi la persécution. Je pense, il n'y a pas besoin d'aller loin, aux Huguenots, aux Camisards, ça a été quelque chose de terrible. Marie Durand, hein, c'est pas très loin d'ici. Hein, donc la persécution a été là. Et l'église de Smyrne, c'est l'église qui a connu la persécution. Et ce qui est intéressant, et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter, c'est qu'à cette église, on se rend compte que dans son contexte, le Seigneur ne donne qu'un seul conseil. Il n'y en a pas 50, il n'y en a même pas deux, il n'y en a qu'un. Et je voudrais m'arrêter sur ce conseil parce que je suis convaincu que c'est ce que le Seigneur veut nous dire pour cette année qui redémarre. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et je crois franchement que ce conseil, il est plus que jamais d'actualité. Il est plus que jamais d'actualité. Alors regardez, la situation, on va la détailler rapidement, elle n'était pas top. Hein. D'abord, le Seigneur commence en disant « Je connais ton affliction ». Ça commence bien. « Je connais ton affliction ». Peut-être ce matin, le Seigneur voudrait dire « Je connais ta situation hein. ». Souvent, quand on passe par des moments difficiles, on a l'impression que le Seigneur ne sait pas. Et qu'on va apprendre au Seigneur ce qu'on est en train de vivre. Alors, on ne le dit pas comme ça, mais presque on est en train de dire au Seigneur « Au cas où tu ne saurais pas, je vais te dire que ». Voyez, mais c'est bon de réaliser, d'ailleurs c'est le point commun de ces sept églises, à toutes le Seigneur dit « je connais » ou « je sais ». J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que ce matin, ce que tu vis, le Seigneur le sait. Et il le connaît. Mais si ça s'arrêtait là, le Seigneur dit aussi « je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas ». La calomnie. Il n'y a rien de plus terrible que la calomnie. Et je voudrais peut-être ouvrir une parenthèse là, parce qu'on n'en parle pas souvent, je vais le faire ce matin, peut-être 2-3 minutes, hein, parce que je crois qu'on touche là à quelque chose d'important. C'est grave la calomnie. C'est grave. Et s'il y a quelque chose que le Seigneur n'aime pas, c'est ça. Dire des choses sur quelqu'un ou quelques-uns qui ne sont pas vrais, ou qui ne sont pas tout à fait vrais, ou qu'on sort peut-être un peu du contexte, pour faire dire ce qu'on n'a pas dit. Vous voyez ? Je crois que c'est quelque part quelque chose auquel il faut faire très attention. Je me souviens, il y a quelques années, je ne rentrerai pas dans les détails. Je le fais volontairement. Ce n'était pas ici, comme ça. On vient me voir et en me parlant d'un frère, on me dit des choses, tu sais, il paraît que. Alors déjà, il paraît que. Sauf que ce que cette personne était en train de me dire, c'était grave. Et j'ai dit à cette personne, mais on ne peut pas se contenter dans un cas comme ça, on ne peut pas se contenter d'un « il paraît que ». Parce que si c'est de la calomnie, c'est grave. Ah ben, on me l'a dit, et puis les personnes qui me l'ont dit, elles sont fiables. Oui, non, non, mais... Donc ce que j'ai fait, c'est que ce frère-là, je l'ai appelé. Et j'ai dit, il faut que je te voie. Et donc, quelques jours après, je l'ai vu. Et j'ai dit, voilà, écoute, on ne va pas tourner autour du pot, je veux te voir parce que. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? Je ne te demande pas d'explication. Et il m'a répondu, c'est vrai. Donc, vous voyez ? Mais je crois que ça vaut la peine quand même de faire attention. D'avoir toujours cette démarche. Parce que la calomnie, c'est grave. C'est grave. C'est très grave. Il y a cette expression, moi, j'ai un peu de mal avec. Parfois, c'est vrai, parfois, c'est pas vrai. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand j'entends ça, ben, c'est pas tout à fait vrai. Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est pas tout à fait vrai. Parce que la calomnie, c'est de la fumée sans feu. Ben oui. La calomnie, c'est de la fumée sans feu. Je vais prendre un exemple que vous connaissez bien. D'ailleurs, je vais y venir un petit peu tout à l'heure. Quand Joseph a été calomnié par la femme de Potiphar, je sais pas, la Bible ne rentre pas dans les détails, qu'est-ce qu'elle a raconté. Mais à mon avis, ça ne devait pas être terrible, hein, ça ne devait pas être top. Hein. Et Joseph, il est arrivé dans la prison précédé d'une peu flatteuse réputation. Vous imaginez un peu ? Vous arrivez là, vous n'avez rien fait, vous avez été droit, vous avez été intègre, vous essayez de faire ce qu'il faut pour plaire au Seigneur, et puis vous arrivez précédé d'une réputation de pervers. C'est super, hein ? On vous fait passer pour le gars léger, le gars qui, vous voyez, qui a les yeux où il ne faut pas. Ben, vous imaginez un peu ? Et imaginez, il arrive dans la prison. Alors, je ne sais pas, ça c'est moi qui le dis, hein. Ce n'est pas écrit. Hein. Mais il arrive dans la prison, il y a les chansons Le Panetier qui arrive, hein, et il dit « Ah, c'est toi le gars qui, avec Madame Potiphar ?» Franchement, vous croyez que ça lui aurait fait plaisir ? Et si Joseph avait dit « Ah non, mais je vous assure, ce n'est pas vrai. Oh, tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. » Je ne suis pas convaincu que ça lui aurait fait du bien. Je crois que c'est important de veiller à cet aspect-là. Et si le Seigneur, ici, à cette église, dit je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent et ne le sont pas, c'est quand même pour que ça nous interpelle, pour que si peut-être, et franchement, je le dis parce que je me sens poussé, si peut-être mon frère, ma sœur, même si ça fait longtemps, dans un domaine ou dans un autre, on a dit des choses sur quelqu'un, et puis le temps a montré que ces choses qu'on avait dit, c'était pas ça ou pas tout à fait ça. Si on n'est pas allé voir la personne, entre elle et nous, personne n'a besoin de le savoir, hein, pour demander pardon, le problème, il n'est pas réglé. Le problème, il n'est pas réglé. Même si c'était il y a 5 ans, même si c'était il y a 10 ans. Et parfois, il y a des situations qui bloquent et on se demande pourquoi elles bloquent. Ben, elles bloquent parce que ça fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, on a fait courir des bruits sur quelqu'un. Et on ne s'est jamais repenti. On n'a jamais demandé pardon. Oh ben, et on se cache derrière. Oh ben, on me l'a dit. Ou bon, moi, c'est pas moi. Hein. Ouais, mais en attendant, vous savez, c'est comme l'oreiller avec les plumes qui partent de partout. Allez rattraper toutes les plumes. Hein. Vous ne les rattrapez pas, les plumes. Hein. Il y en a toujours une qui traîne quelque part. Ben, la calomnie, c'est pareil. C'est pareil. Donc, c'est quand même un domaine important. Je referme la parenthèse, mais... Mais je crois que ça vaut la peine de s'y arrêter. Et puis la troisième chose que le Seigneur dit à cette église, ça c'est pour couronner le tout, verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ah ben super, hein. Déjà c'était pas top, mais en plus, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, etc., afin que vous soyez éprouvés. Il l'était déjà, mais en plus le Seigneur annonce qu'ils vont l'être encore plus. Super encouragement, hein. Vous voyez ? Super encouragement. Ça fait quand même beaucoup, hein. D'autant plus que il me semble qu'on aurait peut-être été en droit d'attendre autre chose de la part du Seigneur. Ça, c'est, je parle d'un point de vue humain, vous croyez pas ? Alors, je vais vous dire ce que peut-être on aurait aimé entendre si on avait été à la place de ces chrétiens. Ce que nous aussi, on aimerait entendre quand on est dans des difficultés ou des moments d'affliction, ce qu'on voudrait entendre. Hein. Alors, première chose, je connais ton affliction. Moi, j'aurais aimé entendre... Mais t'inquiète pas, je vais arriver, ça va cesser, je vais y remédier, je vais intervenir, je vais arriver comme un héros puissant qui sauve, et terminé. Ça aurait été top, non ? Rien. Je connais les calomnies. Ben moi, je sais pas, j'aurais aimé entendre le Seigneur dire, mais t'inquiète pas, je vais te justifier. Moi, je crois que le Seigneur justifie à un moment donné ou à un autre. Hein. Tôt ou tard, même si ça prend du temps, ah, je vais vous le dire, va. Il y a quelques années, il n'y a pas longtemps de ça. Mais... Dans un moment un peu difficile, hein, il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette parole, ça m'a toujours suivi, je ne l'ai jamais oublié. Parce que c'était vraiment ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Je ne l'ai jamais oublié. Le mensonge prend souvent l'ascenseur. La vérité, elle prend l'escalier. Ça met plus de temps, mais elle finit toujours par arriver. Et je me dis que le Seigneur, à cette église de Smyrne, aurait pu citer ça. T'inquiète pas, je vais te justifier. T'inquiète pas, on t'a calomnié. Oui, ça prend l'ascenseur, ça va très vite. Mais la vérité, ça aurait fait du bien. Waouh ! Ah Seigneur, merci, ça m'encourage. Rien du tout. Le Seigneur, parle pas de ça. Et puis, troisième chose que peut-être on aurait pu entendre, c'est... Quand le Seigneur dit « ne crains pas », ça m'interpelle parce que « ne crains pas », habituellement dans la parole, c'est encourageant. Mais alors ce, entre guillemets, ce « ne crains pas » là, Seigneur, tu peux te le garder. ne crains pas ce que tu vas souffrir. Dans la Bible, il y a des ne crains pas qui sont extraordinaires. Jairus, ne crains pas, crois seulement. Ah, mais c'est super ça. C'est encourageant. Et ça, on le prend tous. Hein. Quand le Seigneur nous dit, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Il y en a un autre, j'ai trouvé, que vous connaissez, regardez dans l'Exode, chapitre 14, c'est quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Vous connaissez un peu, je prends juste ce qui m'intéresse. Il est dit, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et moi je les comprends, quand vous voyez l'armée de Pharaon qui arrive derrière, je comprends qu'ils aient peur quoi. Et regardez la suite, je saute quelques versets, verset 13, Moïse répondit au peuple, regardez c'est ça, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Mais gloire à Dieu quand c'est ça. Et c'est ce que Dieu va faire. Et là, on se dit, waouh, ce ne craint pas, il est super, quoi, voyez. Et il me semble qu'à cette église de Smyrne, le Seigneur aurait pu dire un truc comme ça, quoi. Ne crains pas, je vais intervenir, ne crains pas, il va y avoir la gloire de Dieu, ne crains pas. Ben non, c'est « ne crains pas ce que tu vas souffrir ». Merci. Hein. Quand je disais ça, je me dis « mais Seigneur, ça fait quand même beaucoup, non ?» Et j'aimerais faire un parallèle un petit peu avec ce que vivait cette église de Smyrne et ce qu'ont vécu certains hommes de Dieu réputés. Certains ont vu la gloire de Dieu d'une manière extraordinaire, d'autres un peu moins. Pourtant, c'était les hommes de Dieu. J'ai parlé de Joseph tout à l'heure. Joseph qui, bon, a eu ses rêves, vous connaissez l'histoire. Et puis il se retrouve en Égypte, il n'a rien demandé. Et puis il se retrouve calomnié par la femme de Potiphar. Et puis il se retrouve en prison. Et nous on lit ça, on connaît la fin, c'est facile. Hein. Mais imaginez-vous un petit peu ce qui a dû se passer. Parce que, mis à part le fait qu'il ait dit « l'Éternel fut avec lui », vous allez me dire « c'est déjà pas mal ». Mais de la même façon, on sait que Dieu est avec nous. Hein. On le sait. Que Dieu est avec nous, qu'il ne nous abandonnera pas, c'est écrit. Mais enfin, quand vous êtes en galère, quand c'est compliqué, vous aimerez un peu plus, quoi. Voyez ? Y a que moi qui suis comme ça ou... Non, ça va, merci. Rassurez-moi, parce que on aimerait un peu plus, quoi. Et ce que je remarque dans l'histoire de Joseph, quand même, séparé de ses frères, hein, séparé de sa famille, bon, séparé de ses frères, vous allez peut-être me dire, ouais, ben, c'était pas plus mal, hein, parce que... Bon, bref. Mais... L'espérance, un esclave, en général à cette époque-là, un esclave, ça n'avait pas d'avenir. Hein. C'était voué à la mort. Hein. Et puis quand il n'en pouvait plus, c'était un Kleenex et puis on en prenait un autre. Hein. C'est ça. Et ce qui m'a toujours frappé dans cette histoire, alors je le dis avec des mots d'aujourd'hui, hein, c'est que dans l'histoire de Joseph, il n'y a pas un prophète qui vient et qui va lui dire « T'inquiète pas, Seigneur va te bénir, tu vas te relever. » Il est resté uniquement qu'avec les songes qu'il avait eu au départ. D'ailleurs, cette semaine, je lisais ça, c'est quand même, enfin, je me dis « Tu as de l'humour, oui. » Quand les chansons et le panetier sont là dans l'histoire, là, on y reviendra peut-être un peu mardi soir. Quand les chansons et le panetier sont là, ils arrivent et puis les deux, ils font la tête. Qu'est-ce que vous avez, tout ça? Oh, on a eu un songe. Mais vous imaginez ce que ça a dû faire dans le cœur de Joseph, parce que lui, il en avait eu des songes. Hein. Et l'exorcement des songes, jusque-là, walou, hein, il n'y avait rien. Hein. Et il aurait pu dire, pouf, vous avez eu des songes? Oh, ben, avant que ce soit exaucé, vous avez le temps. Hein. Pouf. Parce que lui-même, il ne voyait rien. Il ne voyait rien. Ouais. Rien du tout. Donc, pas un prophète. Je le dis avec des mots d'aujourd'hui, pas un don spirituel. T'inquiète pas, Dieu est avec toi. Ben, il le sait. Bon, la Bible le dit, mais voyez, rien. Mais il y a quelque chose qui est important, qui ressort chez lui, c'est qu'il est resté fidèle. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu quelque chose de... Mais il est resté fidèle. Vous prenez l'histoire de Daniel, c'est pareil. C'est pareil, c'est un peu la même histoire. Il se retrouve dans un pays qui n'est pas le sien. Il ne sait même pas si un jour il reverra ses parents. Il est à Babylone, il ne sait pas s'il retournera en Israël. Et rien du tout. Alors bon, lui, c'est vrai qu'il a vécu quelque chose de fort avec la fosse au lion, c'est vrai. Mais bon, là non plus, vous ne voyez pas un prophète qui vient, qui lui dit « t'inquiète pas ». Rien du tout. Mais il est resté fidèle. Il est resté fidèle, il est resté droit, il est resté intègre. Ce que je note aussi concernant Moïse. Alors Moïse, va me dire, oui, c'est à part, parce que alors, lui, il a vu la gloire de Dieu. Deutéronome 34 nous dit qu'il n'a pas paru de prophète plus grand que lui, que l'Éternel connaissait face à face, et pour tous les prodiges que Dieu a fait au travers de lui. Enfin, bon, c'est vrai. Mais ce que je remarque, c'est que ce n'est pas cet aspect-là que la Bible fait ressortir, le concernant. C'est plutôt cet aspect-là. Regardez, Hébreux chapitre 3, verset 5, et vous l'avez aussi dans le livre des Nombres, au chapitre 12, il dit « Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. » Et une autre version dit « Il a été digne de confiance. » Dieu veut qu'on soit digne de confiance. Ça, être fidèle, digne de confiance. On n'est pas parfait, c'est vrai, on fait des erreurs, mais digne de confiance, voyez. Donc, on se rend compte que tous ces hommes de Dieu, ce qui les caractérise, c'est la fidélité. Même si certains n'ont pas eu de prophète, même s'il n'y a pas eu de prophétie, même si c'était compliqué, ils ont été et ils sont restés fidèles. Alors, où je veux en arriver ? Ben, je veux en arriver à nous ce matin, parce que c'est ça le plus important. Je veux en arriver à nous ce matin. Ce que je ne me présente pas devant vous ce matin en vous disant « Ainsi parle l'Éternel ». Déjà, je ne me permettrai pas. Oui. En vous disant « Vous inquiétez pas, tout va aller bien, la bénédiction va couler, le réveil va se manifester, les miracles vont se produire, la gloire de Dieu va couler ». Toutes vos prières vont être exaucées. J'arrive pas en vous disant ça ce matin. Alors comprenons-nous bien. Bien sûr que j'ai soif de ça. Bien sûr que j'ai soif de la gloire de Dieu. J'ai soif de voir Dieu se manifester, de voir des situations compliquées se dénouer, de voir des choses, des situations être renversées, parce que je crois que Dieu change les temps et les circonstances. Alléluia. Je crois que Dieu est capable d'un mal d'en faire un bien. Bien sûr que je crois à tout ça, je souscris à tout ça, je dis amen à tout ça. Mais je ne peux pas arriver en vous disant, eh bien, ça va se passer parce que ceci, parce que cela. Je ne peux pas vous dire ça. Je ne peux pas vous dire ça. Mais ce que par contre je voudrais nous dire, parce que je m'y inclus dedans, c'est que dans cette année qui redémarre, je ne sais pas ce qu'il y a devant. Je ne sais pas ce qui nous attend. Je sais que Dieu sera fidèle, ça, il n'y a pas de problème. Je sais que Dieu sera là. Je sais que Dieu est au courant de la situation. Je connais, on l'a vu tout à l'heure. Mais dans ce contexte-là, où quelque part, on ne sait pas ce qu'il y a devant. Il n'y a que le Seigneur qui sait ce qu'il y a devant. Moi j'aime l'histoire dans l'Évangile, quand le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples pour prendre l'anon, là, hein, aller au village qui est devant vous. Les disciples ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver. Mais Jésus décrit exactement ce qu'ils vont trouver. Et ça, c'est encourageant pour nous. Savoir que celui qui nous conduit, celui qui nous dirige, il sait déjà ce qu'il y a devant. Alléluia. Je sais déjà ce qu'il y a devant. Mais moi, je ne sais pas. Mais par contre, le conseil que j'aimerais nous laisser à chacun d'entre nous, mon frère, ma sœur, même si on ne sait pas ce qu'il y a devant, même s'il y a des choses dans notre cœur qui bouillonnent, on a envie que de ceci ou de cela, et c'est normal, et on prie, on a des sujets de prière personnels, on veut la gloire de Dieu, on veut voir Dieu se manifester. Au-delà de tout cela, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, que Dieu fasse ou qu'il ne fasse pas. Et quand je dis qu'il ne fasse pas, c'est dans le sens que, comme nous, on voudrait. Parce que Dieu fait toujours. Le problème, c'est que parfois, il ne fait pas toujours comme nous, on aurait imaginé ou pensé. Mais il fait toujours. Vous voyez ? Il fait toujours. Parfois différemment. Mais quoi qu'il se passe, quoi que le Seigneur fasse ou ne fasse pas, dans le sens où je viens de l'expliquer, mon frère, ma sœur, sois fidèle. Peut-être quelqu'un va me dire, quoi ? C'est ça l'encouragement ? Que ça ? Sois fidèle ? Ben ouais. Ben oui. C'est ça l'encouragement. Sois fidèle. Et franchement, Rosetta est là, vous irez lui demander à la fin. Tout l'été, on n'a parlé que de ça. Entre nous, on n'a parlé que de ça, et c'est vrai. Seigneur, que je vois ou que je ne vois pas, qu'il se passe ou qu'il ne se passe pas, dans le sens où nous on voudrait, que je sente ou que je ne sente pas, etc. Seigneur, je veux rester fidèle. Avec ta grâce. Avec ton aide. Et tout ce que je peux faire, je veux le faire correctement. Je veux le faire de tout mon cœur. Je veux être droit. Je veux être intègre. Même si je ne comprends pas tout, même s'il y a des choses qui m'échappent, eh bien, qu'importe. Je ne vais pas m'arrêter à ce que je ne comprends pas. Je ne vais pas m'arrêter à l'un, je ne vais pas m'arrêter à l'autre. Ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas. Ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Seigneur, moi, avec ta grâce, avec ton aide, je veux être fidèle. Alléluia. Et j'aimerais laisser vraiment ce conseil. Peut-être par rapport à ton contexte, qui peut-être sous certains aspects ressemble à l'église de Smyrne, pourrait se dire, mais avec tout ce qui me tombe dessus, avec tout ce qui gravite autour de moi, si vous saviez, c'est pas un contexte sécurisant. Et tu me dis, sois fidèle. Oui, parce que je sais que c'est dans ce contexte-là que Dieu bénit. Et vous noterez avec moi, sois fidèle jusqu'à la mort. Autrement dit, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Vous avez noté d'ailleurs, sois fidèle jusqu'à la mort, oui, ben, c'était déjà presque la mort, quoi. Vu ce qu'il vivait, mais le Seigneur dit, allez, fais un pas de plus. Je vais t'encourager à faire un pas de plus ce matin, simplement. Dire, Seigneur, ok, je veux rester fidèle. Vous avez des tas d'exemples dans la parole où des gens ont été fidèles pendant un temps et puis se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés. Et je prends juste un exemple, un verset qui m'a arrêté aussi cet été, concernant Saül, 1 Chronique 10, verset 13. Saül mourut pourquoi? Parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Mais ça vient après. La première raison, c'est parce qu'il se rendit coupable d'infidélité. Vous voyez ? Saül, souvent, on pense, oui, c'est vrai, il est tombé bas, il a consulté la magicienne, etc. Ok. Et ça, Dieu le condamne. Mais la première chose qui a fait couler Saül, c'est son infidélité. Et moi, j'ai envie de dire, mais Seigneur, aide-nous. Sois fidèle jusqu'à la mort. Alors, je vais prendre cette petite image toute simple, mais quand on s'est engagé avec le Seigneur, vous en rappelez? Peut-être certains font « Oui, c'était il y a le jour de votre baptême, vous vous rappelez ?» Qu'est-ce qu'on a fait? En général, on s'est engagé avec le Seigneur, et en principe, il me semble, bon ça c'est Cyril qui le dit, hein, c'était un CDI, non? Contrat à durée indéterminée. On n'a pas signé un CDD, j'essayais pendant 6 mois, ou un contrat de 2 ans, et puis après on renouvellera, on verra, hein. Non, c'est un CDI. C'est pas un CDD. Alors Seigneur, je veux rester fidèle jusqu'au bout. Même si je ne comprends pas tout. Même si je n'ai pas toutes les explications, comme à Smyrne. Seigneur, ne donne aucune explication. Et c'est ça notre problème, c'est que nous on les veut les explications. Et je ne vous blâme pas parce que moi je suis le premier comme ça. Hein. Seigneur, il va falloir que tu m'expliques. Hein. Il va falloir que tu me dises, hein, parce que sinon... Ben, relisez cette lettre-là. Seigneur, donne aucune explication. Le seul conseil, sois fidèle jusqu'à la mort. Et peut-être ce matin, tu es venu chercher des explications. Seigneur, t'en donne pas, mais il te dit, sois fidèle. C'est tout. Ben oui. Mais c'est le plus difficile. Hein. Seigneur, aide-moi. Alors, je termine. Je ne vais pas être trop long. Mais vous remarquerez avec moi que quand Jésus parle des temps de la fin, connaissez ces textes, c'est Matthieu 24. Hein, parce qu'au fait, vous savez que Jésus revient. Il ne faut quand même pas l'oublier, ça. Hein, sans parler que de ça, mais enfin, de là à parler que de ça, il y en a qui n'en parlent plus, quoi. Donc, Jésus revient quand même. Hein, va revenir chercher son église, il va revenir sur les nuées du ciel. Tout œil le verra. Alléluia, et moi je le crois de tout mon cœur. Et moi je dis, Seigneur, viens, hein, l'esprit, l'épouse et l'esprit disent, viens. Et je dis, Alléluia. Peut-être ce matin on dit, oh non, Seigneur, attends un peu. Non, non, moi je dis, viens, Seigneur. Oula, tu peux venir sans problème. Attends, Seigneur, je dois d'abord me marier, je dois... Ouh, la promotion, tout ça. Viens, Seigneur. Mais ce que je remarque, c'est que, qu'est-ce que le Seigneur met en avant? Alors bien sûr, nous, nos yeux, ils s'arrêtent, les tremblements de terre, les guerres, les trucs, les famines. Wow. Et c'est vrai que quand on voit des choses à la télévision, on est interpellé, on se dit, oulala, mais c'est ce que disait Jésus. Moi, je remarque que le Seigneur met autre chose en avant. Il met la fidélité en avant. Regardez, je prends juste un texte, hein, Matthieu 24, que vous connaissez. Là, il s'adresse à ses disciples. À ses disciples. Soit dit en passant, on y viendra. Il faut bien faire attention, il y a des textes où le Seigneur s'adresse à la foule et d'autres où il s'adresse aux disciples. Et il y a des choses qu'il dit aux disciples qu'il ne dit pas à la foule. Il faut bien faire et ça, par contre, il le dit à ses disciples. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Rien que ça, moi, ça m'interpelle. Ou vous n'y penserez pas. Les autres, ils n'y pensent pas. Hein. C'est comme à l'époque de Noé, personne ne le savait, vous voyez. Mais là, il parle des disciples. Ou vous n'y penserez pas. Déjà, moi, ça m'interpelle. J'ai comment ça, un chrétien qui... Un croyant qui... Ben oui. Et là, regardez. Et Jésus donne une image. Qu'est-ce qu'il dit? Quel est donc le serviteur fidèle? On ne sait pas qui il est, ce serviteur. On ne sait pas, trop qu'est-ce qu'il faisait, quelle était sa tâche. La seule chose que Jésus fait ressortir, c'est sa fidélité. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Ce serviteur fidèle. Ce n'est pas le serviteur, il a fait ceci, il a fait cela, le CV comme ça, le truc, machin. Non, serviteur fidèle. Et franchement, on est tous des serviteurs et des servantes ici. Hein. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Hein. Moi, je ne suis pas plus haut que vous. On est tous pareils. Hein. Je me dis, Seigneur, s'il y a quelque chose que je veux, c'est que tu me trouves fidèle. Le reste, après, les titres, les machins, les vous savez, les trucs qui flattent l'ego, tout ça. Mais Seigneur, que je sois fidèle. Le serviteur fidèle. Et ce qui est intéressant, vous connaissez, ça suit derrière Matthieu 25, la parabole des talents. Connais tout ça, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître, etc. etc. Vous voyez, encore une fois, tu as été fidèle en peu de choses. Ouais. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Que Dieu nous aide, on reprend cette année, on repart dans une nouvelle année. On ne sait pas ce qu'il y a devant, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien projeter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, comme je vous l'ai dit, dimanche prochain, on vous présentera un petit peu ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, je ne suis pas en train de dire ça. Mais au-delà de tout ça, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, hein, mais si on n'est pas fidèle, hein, on peut faire beaucoup de projets, on peut partir dans tous les sens, on peut dire, waouh, c'est super, oui, tu... Mais si on n'est pas fidèle, ça ne sert à rien. Dieu ne nous suivra pas, il dira, ok, vas-y. Moi, je préfère passer derrière le Seigneur, hein, et suivre le Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, là où nous en sommes arrivés, au point où nous en sommes arrivés, je crois qu'on peut dire... La même chose qu'on trouve dans l'Ancien Testament, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, Bénézer, l'Éternel nous a secourus. Ben Seigneur, on veut faire encore un pas de plus dans cette année. Aide-moi à être fidèle, même si je ne comprends pas, même si je n'ai pas toutes les explications, même si les choses ne tournent pas exactement comme moi je l'aurais pensé. Si c'est le cas, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis le premier à prier pour la guérison. Je suis le premier à prier pour la guérison. Parce que je crois encore aujourd'hui en un Dieu qui guérit. Alléluia. Je crois de tout mon cœur. Mais que ce soit ce domaine-là ou d'autres domaines, Seigneur, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive avec ta grâce, aide-moi à être fidèle. Et qu'importe ce que font les autres. Parce que souvent, c'est ça aussi le problème. Hein. Qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Qu'est-ce que l'autre derrière? Et qu'importe, toi suis-moi. Hein. Qu'importe, toi suis-moi. Mais ma prière, c'est que vraiment Dieu nous aide dans cette année à être fidèles. Et je laisse vraiment, et je termine par là, je laisse vraiment cette parole sur notre cœur. Sois fidèle jusqu'à la mort. Mon frère, ma soeur, sois fidèle. Peut-être ce matin, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne comprends pas. Il y a ceci, il y a cela. Seigneur, dis-moi, parle-moi. Ben, le Seigneur te dit simplement, sois fidèle. Ah, vous êtes comme moi, vous voudriez tellement plus. Hein. Mais je crois que c'est le plus important. Parce que s'il y a ça, au bout, il n'y aura pas de problème. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être pas avoir d'ambition dans le bon sens du terme, qu'il ne faut pas soupirer après la gloire de Dieu. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais Seigneur, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je vais être fidèle jusqu'au bout. Et que dans cette année, Dieu nous trouve fidèles. Tout ce que je peux faire, je veux le faire de tout mon cœur, simplement avec fidélité. Seigneur, je ne veux pas m'arrêter. Mais Seigneur, je veux être ton serviteur pour que le nom de Jésus soit mis en avant. Pas moi, pas nous, pas le nom d'une église ou je ne sais pas trop quoi. Mais Seigneur, que ton nom soit glorifié. Et ça, c'est le programme. Il est simple. La feuille de route, elle est simple. Mais Seigneur, aide-moi parce que moi, je suis porté à l'infidélité. Et peut-être au risque de vous déplaire, de vous décevoir, nous sommes tous portés à l'infidélité. Et si Saül a été porté à l'infidélité à un moment donné, mais on n'est pas mieux. Hein. Je ne suis pas mieux. Hein. Alors Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Que Dieu vous bénisse. Et dans ce qui est devant, Seigneur, lui sait. Seigneur, il sait ce qu'il y a devant. Alléluia. Alors Seigneur, moi je veux te faire confiance et je veux être fidèle. Alléluia.